Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Cet homme-là est terriblement humain. Que demander de mieux d'ailleurs à un artiste que d'être terriblement humain. Je reçois Michel Boujna, qui est nommé aux Molières pour son interprétation magistrale de l'avare de Molière, dans une mise en scène d'une intelligence euphorisante, signée Daniel Benoît, avec une scénographie somptueuse et poétique de Jean-Pierre Laporte et 9 comédiens pleins de fougue et d'ardeur. Tout cela sur la scène du Théâtre des Variétés à Paris. C'est un avare qui va faire date. Que je suis heureuse de vous accueillir, Michel Boujna.
Que je suis heureux, madame, d'entendre tous ces compliments. Ça fait du bien, hein. C'est doux, c'est tendre, c'est très bien.
Alors, cher Michel Boujna, Molière est né le 15 janvier 1622, rue Saint-Honoré à Paris. Vous, le 15 janvier 2022, vous êtes entré sur la scène donc, du Théâtre des Variétés pour y reprendre l'avare, soit jour pour jour, 4 siècles après la naissance de Molière. Alors, ceux qui ont eu déjà le bonheur de voir la version très inspirée dans laquelle vous dirige Daniel Benoît ont la réponse à la question que je vais vous poser, mais tant pis, je vais quand même vous la poser. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnamment moderne chez Molière alors que le monde n'est plus le même et la langue n'est plus la même?
C'est le génie. C'est ça qui est intemporel. C'est ça qui est universel. C'est le fait que Molière a la capacité de sonder l'âme humaine. Or, l'âme humaine, elle est la même depuis qu'elle existe. Les rapports entre l'homme, le pouvoir, le père, le fils, les rapports amoureux sont éternels. Cet homme qui vient d'un milieu plutôt modeste, qui a réussi à la force du poignet, qui est veuf, qui tombe amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui, qui découvre que son fils est amoureux de la même femme, que vraisemblablement il n'a aucune chance en face de son fils. Parce qu'elle préférera le jeune au vieux, évidemment.
Tout ça peut arriver en 2022.
Mais bien sûr, c'est ça qui fait la modernité. Et c'est aussi la qualité du texte. C'est d'une fluidité, d'une intelligence. Je veux dire, c'est difficile d'être mauvais. Vous comprenez? C'est difficile d'être mauvais quand vous jouez Molière. Parce que c'est tellement bien que si vous le servez, il vous le rend au centuple. Vous savez, c'est comme quand on fait du sport. Quand moi, je joue au tennis avec Fabrice Santoro, qui est un de mes partenaires privilégiés,
oui,
avec Amélie Mauresmo, quand je joue avec eux, je joue super bien.
Ben voilà.
Je joue 4 classements au-dessus.
Mais si vous jouiez avec moi, vous joueriez super mal, parce que je suis mauvaise au tennis.
Ah bon, vous êtes mauvaise au tennis?
Eh ben oui.
Ça, c'est terrible. On ne jouera pas. On le fera pas ensemble.
Bon, ça, mais en revanche, bavarder, on va continuer. Depuis 45 ans, Michel Boujna, tout le monde acclame votre art de l'improvisation sur scène dans vos one-man shows. Or, dans l'avare, vous vous frottez à l'exercice diamétralement opposé d'un texte écrit en 1668 et joué à la syllabe près, même si, je le précise, l'avare n'a pas été écrit en alexandrin. Cette rigueur en jonglant avec les mots d'avant, vous l'aimez aussi?
Oui, parce que c'est d'une clarté et d'une fluidité incroyable. Par exemple, il dit « Cependant, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit venir visiter, vous mener avec elle à la foire. » Si je ne le dis pas comme ça, je pourrais très bien dire « Cependant, préparez-vous à recevoir ma maîtresse, elle va venir vous chercher, vous emmener à la foire avec elle. » Eh bien, c'est 10 fois moins beau.
Mais
et
bien
ça passe
évidemment.
Pas. Et donc, la qualité du langage et de l'écriture vous fait grimper des niveaux. Et alors évidemment, quand vous commencez à travailler dessus, c'est pas une chose évidente pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de jouer ses propres textes.
Oui, et d'improviser aussi.
Et d'improviser, mais c'est tellement
parce que la prose de Molière, elle sonne presque comme des alexandrins. Il y a une petite musique particulière chez Molière.
Oui, c'est une langue particulière. Mais ce qui est formidable, c'est que ça crée justement la capacité qu'on peut avoir à transmettre des émotions, parce que ça devient comme un masque. Mmh. Ça devient l'écriture, la syntaxe, le style devient comme un costume dans lequel on rentre.
Bon, Michel Boujna, vous avez autour de vous, dans cet avare, 9 comédiens magnifiques, les décors, la lumière, la musique, la maestria, l'audace avec vraiment lesquels tout ça est enlevé. Je rappelle que c'est Daniel Benoît qui signe vraiment une mise en scène presque chorégraphiée. C'est du théâtre, au plus fort, au plus brillant de son art, franchement, On n'a pas si souvent que ça l'habitude d'une telle ambition dans le divertissement. Alors, il y a la Comédie Française, bien sûr, mais
oui,
sinon...
Ce qui est tout à fait incroyable dans cette aventure, c'est qu'on joue l'avare au Théâtre des Variétés, qui n'était pas du tout le théâtre destiné à recevoir ce genre de spectacle,
ouais.
Et que c'est devenu un spectacle populaire, vraiment populaire, alors que on pourrait penser que le classique est un peu éloigné du grand public populaire. Ce qui est faux. Moi, j'ai des messages d'enfants de 12-13 ans qui m'ont dit « Merci, parce que pour la première fois, je suis venu au théâtre, c'est la première fois que je viens au théâtre voir une pièce classique. Merci de m'avoir fait découvrir Molière comme ça. » Mais tout simplement parce qu'une fois de plus, il ne faut pas s'emparer des pièces et les éloigner du public. Quand vous jouez Molière, c'est excessivement populaire. C'est drôle, c'est intelligent.
Oui, parce qu'en plus, l'avare n'est pas que l'histoire d'une passion folle pour ce qui permet de tout acheter, c'est-à-dire l'amour, la jeunesse, et puis rebattre les cartes même si on est un vieillard, c'est-à-dire l'argent. L'avare, c'est aussi l'histoire d'un désespoir. Alors, jouer l'avare, c'est-à-dire incarner Harpagon et puis retrouver son humanité, ce que vous faites derrière la caricature qu'on peut en faire, c'était une ambition de longue date ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, parce que quand Daniel Benoît me l'a proposé, je dis non. Puis j'ai réfléchi toute la nuit, je dis...
Pourquoi
après
d'abord
tout,
avez-vous dit non ?
Parce que instinctivement, on est en face d'un des 25 grands rôles du répertoire. Il n'y a que de grands acteurs qui ont joué ça, sans parler de Michel Bouquet qui en avait fait quelque chose de magnifique. Michel Aumont, Michel Serrault. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans cette galère ? Pour citer Molière.
Voilà.
Et après, je me suis dit, mais enfin, est-ce que tu as envie de le faire ou pas ? J'ai dit, oui, j'ai envie de le faire. Alors j'ai rappelé Benoît le lendemain en disant, oui, je veux le faire, finalement. Après, j'ai relu la pièce, que je n'avais pas relu.
Et là,
et j'ai
nouveau,
dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis con,
je
moi, d'avoir
dans
fait...
Quoi
oui,
c'est un Himalaya, c'est ça ?
Exactement. Et un jour, en lecture, il y a une phrase qui dit, de tous les humains, c'est le moins humain. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inhumain. Je répète souvent ça à propos de cette pièce,
oui.
Parce que ça a été la fenêtre pour moi de tir pour essayer d'amener quelque chose... Peut-être qu'on n'avait pas vu dans les autres avares.
Harpagon est en fait
un être
désespéré.
Et il est humain.
Oui.
Il a des défauts, c'est un monstre, il est méchant. On ne peut pas forcément le sauver, mais c'est encore un être humain. Il n'est pas dans l'inhumanité, ce n'est pas vrai. Il aime ses enfants, il les aime mal, mais il les aime.
Parce que Molière en fait se sert de la famille pour parler du monde et de la société.
Oui.
Comme vous le faites dans vos one-man shows.
Bien sûr, bien sûr. C'est l'inventeur du théâtre moderne, Molière, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire qu'à cette époque-là, vous savez, les grands acteurs étaient considérés comme ceux qui étaient capables de faire des alexandrins pendant 20 alexandrins sans respirer. Molière ne pouvait pas le faire à cause des problèmes de respiration qu'il avait.
Oui.
Donc, il a fait de la prose. À part notamment Le Misanthrope, où il y a 1600 vers,
voilà,
qui est
voilà.
Une pièce à part.
Je crois qu'il y a deux, en fait, pièces de Molière qui sont en prose, n'est-ce pas ?
Oui, absolument. Et donc, il invente une manière de jouer, il invente... Avec l'influence de la comédie italienne, il invente quelque chose.
Alors, en fait, Michel Boujenah, les deux endroits au monde où vous êtes le plus heureux des hommes sont un bateau en Méditerranée sur lequel vous faites semblant de pêcher et une scène de théâtre.
Oui, c'est ma maison. C'est parce que c'est là que tout est possible. Je peux mourir et renaître parce que je vais saluer à la fin. Je peux aimer, je peux être malheureux, je peux inventer, je peux tout faire dans un théâtre. Tout est possible.
Et nous rendre heureux. Alors, cher Michel, bon, on est tous des exilés de notre enfance, hein, mais vous, sans doute, un peu plus que les autres.
Mais je crois que les artistes sont comme ça. Elias Canetti, il dit dans une histoire d'une jeunesse, tout ce que j'ai écrit, je l'ai tiré de mes 6 premières années. En fait, j'ai l'impression que quand on écrit ou quand on joue, on est encore plus le miroir des autres. C'est ça notre fonction. Notre fonction, c'est de faire résonner cette émotion-là chez les autres qui ont d'autres activités, d'autres métiers, d'autres vies que les nôtres. Nous sommes le piano et le pianiste, et notre outil de travail, c'est nos émotions. Et nos émotions, elles sont construites sur notre enfance.
Bien sûr. Alors, vous avez quitté la Tunisie à 11 ans, en 1963. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre valise quand vous êtes parti ?
Tellement de choses que je ne voulais pas oublier. Tellement d'images. Tellement de souvenirs, tellement d'amour, tellement, à tel point que jusqu'à l'âge de 15-16 ans, j'étais extrêmement malheureux.
Ouais.
parce que j'ouvrais cette valise la nuit en cachette pour m'y plonger, pour m'y noyer dans mes souvenirs, pour pouvoir les oublier. À 16 ans, j'ai décidé que c'est fini. Jusqu'à l'âge de 23, 20, disons 25, 26 ans, pendant 10 ans, j'ai dit c'est fini. Il faut arrêter. Mais tout ça n'était pas forcément conscient, hein. Et à 26, 27 ans, j'ai eu un retour de mes racines, de mes souvenirs. Et cette valise, je l'ai retrouvée au grenier, dans mon grenier imaginaire. Et je l'ai ouverte de nouveau. Et c'est à partir de ça que j'ai assumé qui j'étais.
Voilà, et fait des spectacles comme le premier, Albert, en 80. Mais là, vous allez un peu vite en besogne. Je voudrais rester sur l'enfance parce que vous avez quitté une terre qui exhalait les parfums de la fleur d'oranger pour débarquer par un hiver glacé dans la banlieue parisienne de Bagneux, où nombre d'humoristes d'ailleurs ont grandi, comme Coluche, comme Thierry Le Luron. Et effectivement, vous êtes devenu un enfant triste, un enfant bavard, dit votre grand frère. Mais triste.
Oui, oui. Mais ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre ou à définir. J'ai énormément de mal avec l'expression du bonheur. Dans un film de Lelouch, Les Misérables, à la fin du film, c'est une scène que j'ai avec Belmondo, où on danse la valse tous les deux. Et il dit à mon personnage, il dit, mais écoutez, la guerre est finie, on est sains et saufs, vous avez retrouvé votre femme, votre fille, tout va bien. Est-ce que vous pouvez sourire un petit peu? Et le personnage que je joue dit, excusez-moi, mais nous, on a toujours un petit malheur d'avance. Et est-ce que c'est de là que ça vient? Le sentiment, moi, que j'ai toujours un petit malheur d'avance.
Parce qu'il paraît que sur toutes les photos d'enfance, dans l'album familial, vous avez le regard complètement perdu, alors que vos frères sourient. Vous êtes une fratrie de quatre, et il y en a un, toujours, perdu dans ses songes.
Mais moi, quand je gagne quelque chose, j'adore la compétition, d'accord? Ça me plaît. J'adore jouer.
Mais quand vous gagnez...
Eh bien, je pense toujours à ce que j'aurais pu perdre.
Bon, une amie de votre père, Michèle Boujenah, était, paraît-il, une conteuse fascinante. Elle exagérait tout, bien sûr, elle surjouait tout, mais elle hypnotisait tout le monde lors des réunions de famille. La première inspiratrice, ce fut elle...
Tata Ginette, oui, bien
sûr. Tata Ginette.
Elle était d'une beauté en plus. Elle avait des yeux verts. Ah bah, c'était une femme d'une beauté. Alors, ce qui était fascinant, c'était à la fois qu'elle était très belle, et en même temps, elle racontait des histoires de cul, des machins. Elle avait un côté... Pour moi, c'est une...
Décomplexée.
Oui, c'est une cousine de... Vous voyez Sophia Loren?
Oui.
Sophia Loren, elle avait ce côté populaire dans ses premiers films. Et en même temps, elle était d'une beauté renversante. Eh bien, Ginette avait ça. Et c'est un humour qu'elle n'a jamais quitté. C'est-à-dire que vous savez qu'à la fin de sa vie, elle est morte à 96 ans. Incroyable. Et sa petite fille vient la voir, elle fait « ça va ?» Elle fait « oui, j'ai arrêté de fumer ». Et elle dit depuis quand? Depuis hier, 96 ans. Elle lui fait pourquoi? Elle fait parce que j'ai appris qu'on pouvait mourir en fumant. Elle a 96 ans. Elle lui dit comment tu vas? Elle lui fait j'ai mal partout, sauf au bon endroit. Elle a jamais arrêté de faire rire. Elle m'appelait de temps en temps pour me raconter une histoire drôle. Elle les racontait de manière sublime et vraisemblablement, oui. Elle fait partie des personnes qui m'ont donné le goût de la narration et de faire rire. Ça, c'est sûr.
Et puis, il y a eu cet oral au lycée, bien sûr, ou sur une estrade. Vous avez fait un exposé très personnel qui a pris une ampleur inattendue. Vous parliez du livre « Le dernier des justes » et le prof, comme les élèves, vous écoutait religieusement. Il y a eu un déclic à ce moment-là? Vous aviez quel âge?
J'avais 14 ans.
Ouais.
J'ai découvert...
qu'on pouvait... Vous écoutez.
Oui, et puis que quand je racontais des histoires, j'étais un petit peu utile aux autres, que je leur donnais du plaisir. Et au-delà du côté léger, c'était pas un plaisir léger, c'était quelque chose de fort. Et j'étais ému de ça, mais je savais pas que j'allais en faire mon métier.
Pas du tout, parce que en plus, votre père était médecin, votre oncle était médecin, l'un de vos frères médecin. Donc il y avait comme une dynastie consacrée à la médecine, à laquelle déontologiquement il fallait se rallier. Alors il paraît que vous avez tenté médecine, on vous avait eu 3 jours en fac de médecine, et puis vous êtes allé trouver votre père.
Oui, je lui ai dit, je peux pas faire médecine. J'ai dit, peut-être je fais une énorme connerie dans ma vie, mais je vais faire du théâtre. Et heureusement. Parce que peut-être que j'aurais été un, peut-être pas un mauvais médecin, mais je pense que il fallait que je fasse du théâtre. C'était indispensable pour ma survie affective. Vous savez, c'est comme quand vous aimez. Vous dites, mais je vais mourir sans cette personne. Si je la retrouve pas, je vais mourir. Ça arrive à tout le monde, au moins une fois dans sa vie, de vivre ce genre d'émotion.
Et on ne supporte pas d'être raisonné.
Exactement. Et ben, c'est ce qui s'est passé quand j'ai décidé de faire ce métier. Et aujourd'hui, quand je vois mes cousins médecins, mon frère médecin, parfois je me dis, ah, ça aurait été peut-être bien. Finalement, je travaille la semaine, j'aurais eu mon week-end, j'aurais sauvé des vies, j'aurais fait du bien. Peut-être même j'aurais fait rire mes patients aussi. Est-ce que c'était pas
mieux ? Mais là, vous faites rire même ceux qui ne sont pas vos patients. Bon, vous vouliez...
Mais non, vous êtes tous mes patients. Voilà, parce que voilà. Vous êtes tous cinglés. Moi, je le sais, je suis au courant.
Vous vouliez, vous rêviez de faire du théâtre, mais au concours d'entrée de la très réputée École d'art dramatique du Théâtre National de Strasbourg, on vous a recalé. On vous a recalé pour le motif suivant, il a l'accent tunisien. Alors, il paraît que ça a été très compliqué au départ. Robert Hossein, même Robert Hossein, vous apparaît-il conseillé d'abandonner Michel Bougenin ?
Ben, on me disait, c'est mieux que tu sois metteur en scène qu'acteur, quoi. Parce que tu seras forcément limité.
Tout ça à cause de l'accent ?
Ouais.
Et vous leur répondiez quoi ?
Ben, moi, j'écoutais, je me disais, ils ont peut-être raison, j'étais malheureux, quoi. J'en souffrais. C'est bien plus tard que j'ai décidé d'en faire mon étendard. C'est pas...
Vous savez que vous êtes en train de parler en rime, là, hein ?
Ah bon ?
C'est bien plus tard que j'en ai fait mon étendard.
Eh ben, il s'en est sorti le bâtard. je pense que, ouais, c'est. Mais moi, je me disais, ils ont raison, ils ont peut-être raison. Je me rendais pas compte, vous savez.
Alors,
je souffrais en tout cas.
Vous souffriez, mais ça ne vous a pas empêché de monter votre propre compagnie. C'était très culotté d'ailleurs, car vous aviez tout juste 20 ans, Michel Bougenin. Vous avez baptisé cette compagnie La Grande Cuillère et vous aviez tellement le feu sacré que pendant 6 ans, avec des comédiens amateurs, vous avez marié le théâtre, le social et carrément l'expérimental.
Oui, complètement. Mais...
Donc là, vous étiez même un peu médecin. Vous alliez bosser dans des hôpitaux, vous travaillez avec des enfants,
de transit,
voilà, déscolarisés ou alors autistes. Bah, ou alors...
Partout où c'était possible de faire du théâtre, je faisais du théâtre. Partout où on me demandait de travailler, je travaillais. Et l'expérience avec les enfants a été fondamentale parce que de les voir, eux, découvrir leur chemin pour raconter des histoires m'aidait à découvrir le mien. C'est-à-dire que j'étais, moi, dernier de cordée. C'est eux qui grimpaient la montagne. S'ils tombaient, je devais les ramasser. C'était ça mon rôle. Mais c'était leur chemin, c'était leur parole, c'était leur histoire. Vous savez, il y a le langage du cours, avec le professeur, qui est important, et il y a le langage de la cour. Moi, c'était le langage de la cour qui m'intéressait avec eux. Puisque je ne leur faisais pas jouer des textes ni classiques, ni...
Vous leur faisiez jouer quoi ?
Ben, eux, des enfants de 12 ans qui sont quasi déscolarisés, et qui me disent...
Vous leur demandiez de choisir une trame, d'improviser ?
Oui, la règle du jeu, c'était, je ne veux pas que tu aies ton âge, donc je ne voulais pas de psychodrame, ni ton prénom, et nous, il faut ou on pleure ou on rit. Mais nous, on a payé notre place, on veut que tu nous fasses quelque chose qui nous touche. Bon. Et il y avait de tout. Il y en avait un, je l'adorais. Vous savez ce qu'il faisait ?
Dites-nous.
Pratiquement toutes ses improvisations, c'était toujours un truc comme ça. Il montait sur scène, il faisait semblant... de mettre une casserole sur le feu, de l'allumer, il allumait et il bougeait plus. Une minute, deux minutes, trois minutes. Et on lui disait, mais c'est quoi ton improvisation ? Il se retournait vers nous, il faisait, j'attends que ça cuise. Et on l'a fait sur scène. C'était génial, parce qu'il a fait ça, on avait mis des barons dans la salle,
oui.
Et des barons qui étaient dans le public, disaient « Mais arrête, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ils se retournaient vers le public, ils disaient « J'attends que ça cuise. » Les gens étaient morts de rire. C'était surréaliste. Et il y a eu ça, comme il y a eu un moment, par exemple, où un enfant disait... Il y avait un qui jouait le père, un qui jouait le fils. Il allait vers le gars qui jouait le père, et il disait au public « Quand mon père est à la maison et qu'il regarde la télé, je peux dire tout ce que je veux, il n'entend rien. » Et il disait, regardez, vous allez voir. Papa, t'es con. Oui, il ne réagit pas. Papa, la prof de maths, je la déteste. Il disait, elle est tellement maquillée que si on tire une balle, ça dérape. Il faut comprendre que dans la salle, il y a les profs Il y a alors tous les élèves du lycée.
Et les parents.
Les parents, l'administration.
Ouais.
Papa, l'école, c'est de la merde. Ils me comprennent pas. Vous voyez ? Il réagit pas. Je peux dire ce que je veux.
Quel
je peux
message.
Dire même des mots mal élevés. Par exemple, papa, trou du cul. Imaginez que ce mec, il a 12 ans.
Oui.
La réaction du public dans la salle. Les gosses, ils étaient comme des fous. Moi, j'ai été mis à pied. Renvoyé.
Ah, carrément, carrément.
Ouais, j'ai été rayé. Et c'est eux qui se sont mis en grève pour que je revienne. C'était la seule classe du lycée en grève. C'était absurde. Parce que c'était pas tout le lycée, c'était une classe. Et c'est grâce à Françoise Dolto et des gens comme ça
oui.
qu'on m'a réintégré. Mais c'était merveilleux de les voir. Parce qu'ils faisaient de la fois de la fiction, la plus belle histoire. C'est un garçon qui a tenté de se suicider. Moi, je disais tout le temps aux psy avec qui je travaillais là-dessus, les coupables de tout ça, c'est les parents. C'est les parents qu'il faut tuer. Un jour, il y a un psychiatre qui m'a dit « Michel, c'est interdit de tuer les gens en France. Alors si tu veux, on va te donner l'autorisation de tuer deux parents, mais choisis-les bien, parce que tu n'auras droit qu'à une fois. » Il y avait un garçon comme ça, il s'est tiré une balle dans le cœur. Il faut dire qu'il avait le revolver qui était posé sur le bureau de son père. D'accord ? Chargé, évidemment. C'est intelligent de la part du père. Un enfant qui était perdu. Hein. La balle, elle est passée à un millimètre du cœur. Il n'est pas mort. À l'hôpital, on arrive pour le voir. Il a un sourire magnifique. On lui dit, mais pourquoi tu ris comme ça ? Il dit, parce que j'ai compris une chose très importante. Ma vie m'appartient puisque je suis capable de la supprimer. J'ai du pouvoir sur ma propre vie. C'est ça que ça voulait dire. J'ai jamais oublié ça, moi. Les voir, ces enfants, faire leur spectacle, construire leur univers, parler de ce dont ils avaient envie de parler, que ce soit de sexe, que ce soit de la famille, que ce soit de l'école, que ce soit du racisme, que ce soit du rapport entre les filles et les garçons. Moi, je regardais ça, j'étais jaloux comme un pou, vous imaginez pas. Je me disais, mais c'est génial ce qu'ils font, et moi, j'arrive pas à faire ça. Jusqu'au jour où j'ai fait ça. Jusqu'au mais jour quand fait, j'écris Albert, je fais ça.
Voilà, mais en les encourageant, vous voyez, vous n'êtes pas devenu médecin, mais en réalité, vous étiez psy. Juste une question avant de faire une pause.
Non,
Michel
j'étais
Bougenat.
Pas psy. J'étais un artiste qui travaillait avec d'autres
alors,
artistes.
Alors, un artiste qui travaillait
avec... Justement, je voulais pas des psys,
moi. Une question avant de faire une pause. Savez-vous si l'un de ses enfants est devenu un artiste?
Oui, oui, il y en a. Bien sûr, il y en a un qui fait de la bande dessinée, il y en a un qui est banquier. Il y en a... Bon, ça fait peut-être 4-5 ans que je n'en ai pas vu, mais je les ai gardés. Ça a duré 8 ans. Hein. On a construit, je les gardais 2 ans à chaque fois et ça a changé de groupe. Mais j'en ai gardé, bien sûr. Bien sûr, il y a un des deux frères Azanavicius. Il y a,
ah oui
ouais, il y a des gens. C'était formidable. Moi, ça m'a beaucoup marqué.
Michel, vous dites. Les gens du Sud sont tous des acteurs. Mais comment expliquez-vous cette vérité qui n'est pas une légende ?
Je ne sais pas. Le soleil, la faconde naturelle. Je pense que le climat et le mode de vie jouent oui. sur les comportements. Je pense que dans les pays où il fait très froid, où on est vraiment souvent enfermé ou protégé ou emmitouflé, le corps, l'imaginaire ne fonctionne pas pareil que dans les pays... au soleil.
Parce voilà. que vous parlez d'imaginaire, mais il y a aussi cette capacité à tout exagérer, par exemple. Mais les gens du Sud ne mentent pas. Ils embellissent la réalité, c'est ça ? Comme vous, d'ailleurs, dans vos spectacles.
Bien sûr, c'est des conteurs. Quand vous racontez, le côté reportage au premier degré, ça n'intéresse pas les gens du Sud. Ce qui leur plaît, c'est qu'ils ont vu un accident, ils vont vous raconter l'accident, mais vous n'avez jamais entendu un accident comme ça. C'est une merveille d'accident. Donc, tout est un événement, tout est... C'est...
Mais en fait, la vie ne se suffit pas.
Mais c'est ça, la vie. C'est de la réinventer.
Voilà.
Vous savez, en ce moment, je travaille sur un sujet, dans mes heures perdues, de trois femmes qui sont des femmes de ménage, dans un théâtre. Et elles s'amusent...
Est-ce que c'est le sujet de votre prochain film ?
Non, je ne sais pas encore, franchement.
Ah, d'accord.
Mais en tout cas, je m'intéresse beaucoup à cette histoire que j'invente. Elles sont de trois générations différentes. À un moment donné, il y en a deux... qui se mettent à jouer la scène du balcon de Roméo et Juliette.
Oui.
Et elles sont magnifiques. Et la plus jeune se met à pleurer à un moment donné. Et les deux autres s'arrêtent et disent « Pourquoi tu pleures ?» Elle dit « Parce que moi, on ne m'a jamais dit qu'on m'aimait comme ça. » Et la vieille lui dit « Mais toi, tu n'as pas compris. Personne n'a jamais dit à personne qu'il l'aimait comme ça. C'est pour ça que le théâtre existe. C'est pour ça qu'on invente des histoires. C'est comme ça. Et c'est ça qui nous fait rêver. Et au fond, je pense que il n'y a pas plus beau que le rêve. Et la tradition orale de la Méditerranée dans son ensemble, que ce soit en Italie, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit dans le Maghreb, la parole joue un tel rôle dans le quotidien des gens que ce sont des acteurs. Les Italiens, vous imaginez, les Italiens, quels acteurs ? Molière sans les Italiens, c'est pas Molière, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Il a appris l'art de la comédie avec les Italiens.
Alors, il y a le théâtre et il y a le cinéma. Le cinéma, pour votre premier film en tant que réalisateur, Michel Bougenat, vous aviez opté pour une comédie douce, amère, saisissante, qui racontait la tentative désespérée d'un père de famille, Philippe Noiret, pour réconcilier ses trois fils, Charles Berling, Bruno Pozzulu et Pascal Elbé. Tout de même, devenir réalisateur en dirigeant Philippe Noiret, c'était chic.
Ah oui, c'était très chic. Lui aussi me manque tellement, tellement. J'aurais tellement aimé qu'il voie l'avare. J'osais pas le diriger, vous savez, au début. Les deux premiers jours. Et au bout de deux jours, il est venu me voir, il m'a fait « Michel, j'ai besoin d'être dirigé. C'est vous le metteur en scène. » J'ai dit « Mais Philippe, vous avez fait 100 films, qu'est-ce que j'ai à vous apprendre ?»
Et j'imagine que vous aviez écrit le film pour lui.
Mais, c'est-à-dire que quand on écrit le film avec Pascal Elbé et Edmond Ben-Simon, à chaque fois qu'on pense à un acteur, il est mort. Mastroianni, Montand... Au début, on cherchait un Méditerranéen, oui, comme nous. Et jusqu'au jour où mon frère Paul me dit « Mais pourquoi tu ne penses pas à Philippe Noiret ?» Et je lui dis « Oui, mais Philippe, c'est un homme du Nord. » Et j'ai revu Cinéma Paradiso, j'ai revu Les Ripoux, j'ai revu...
Eh ben non, c'est pas un homme du Nord.
Non, il a fait beaucoup de films en Italie.
Bien sûr.
Et c'était un acteur... Philippe, il avait une phrase magnifique que j'aimais beaucoup. Il disait, à propos du choix d'un acteur, il disait... On se voyait tous les deux. Il disait, n'engagez jamais un acteur pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il est capable de jouer. Parce que sinon, on ne fait pas œuvre d'acteur. Œuvre d'acteur, c'est de jouer.
Bien sûr.
Donc... Il m'a appris tellement. Et au bout de deux jours, j'ai commencé à le diriger. Il était très content. On s'est beaucoup amusé. On a beaucoup travaillé. Il ne supportait pas que je le touche, c'est tout. Moi, je suis très tactile. Donc, je mettais tout le temps ma main sur son bras ou sur son épaule en disant, voyez là, vous rentrez dans la pièce.
Et hop,
vous
fermez la... il reculait d'un pas.
Sans me regarder, il me fait, arrêtez de me toucher.
Mais quel souvenir magique de père et fils qui ne figure pas sur la pellicule est gravé à jamais dans votre mémoire.
Oh, tellement de moments. Un jour, il n'était pas dans la scène. Et il n'allait jamais dans sa loge, sur Père et Fils. Il était toujours sur le plateau avec nous. Donc il avait sa chaise, son fauteuil, et puis il assistait au travail des trois abrutis, comme il les appelait, Charles, Bruno et Pascal. Et il faisait beaucoup les idiots, moi aussi. Je suis un des rares metteurs en scène à rire plus que les acteurs. Et... D'ailleurs, un jour, Philippe, au lieu de dire « je m'en bats les couilles », il a dit « je m'en tape les couilles ». Je crois que je me suis mordu au sang pour ne pas rire pendant la prise, pour pouvoir la garder. Et dans le film, je l'ai gardé. Et il était là, il veillait sur nous. À un moment donné, il y avait un lit dans le décor, il s'est allongé, il a fait sa sieste pendant le tournage, pendant que je tournais avec les autres. Et nous, pour le décor et pour les axes, on avait besoin de bouger ce lit.
Oui.
Et le souvenir magnifique que j'ai, c'est mes trois acteurs et mes techniciens qui
soulèvent
le lit.
Alors qu'il fait la sieste et
dort,
il soulève le lit.
On soulève le lit.
Précautionneusement. Il ne se réveille pas.
Non, on le dépose, il continue à dormir et nous, on continue à tourner. Et ça, c'est un moment...
Incroyable.
On a passé des moments tellement... On a vraiment, et pendant le tournage, et avant le tournage, à Saint-Paul-de-Vence, quand on a fait les lectures... On a passé des moments de bonheur.
Sur vos terres, puisque voilà, à la maison, vous vivez
c'était...
à Saint-Paul.
Non, vraiment, vous savez, moi je trouve que dans ma vie d'homme, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer la mère de mes enfants. J'ai beaucoup de chance d'avoir deux enfants magnifiques. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Noiret. J'ai eu beaucoup de chance de faire ce métier. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir autant de succès dans ma vie et des échecs aussi. Je suis chanceux, vraiment, vraiment. Et je mesure cette chance.
Michel Bougenat, Père et Fils a été nommé au César de la meilleure première œuvre. Et puis vous avez réalisé ensuite Trois Amis et Le Cœur en Braille. Pourquoi vous êtes si dur avec vous, presque amer, quand vous confiez « Je rêve de réaliser un très beau film, ce que je n'ai pas encore fait ». Pourquoi dites-vous ça ?
Parce que j'ai toujours l'impression que ce que je n'ai pas encore fait le mieux. Parce que
Père et Fils a été carrément acclamé. Hein.
Oui, oui,
succès,
c'était bien. Oui,
grand succès populaire et la critique unanime.
Oui, c'est vrai, c'était bien. Mais
qu'est-ce qui manquait ?
Je sais pas. Je veux faire mieux. Je veux chercher mieux. J'ai pas fait encore ce que je devais faire.
Le scénario,
et peut-être que je le ferai jamais.
Le scénario du prochain film, vous l'avez, j'imagine.
Je travaille, mais c'est pas bien encore. C'est presque ça, mais c'est pas bien. Il manque quelque chose. Je sais qu'il manque quelque chose. Donc, j'ai pas trouvé, je n'irai pas au bout. J'attends de trouver pourquoi, dans cette histoire sur les riches et les pauvres que j'écris depuis longtemps maintenant, et je suis pas seul, on est deux à travailler, il y a un truc qui manque. Je sais pas ce que c'est, mais je vais trouver.
Vous allez le trouver. Bon, laisser une trace, c'est le souhait de tout créateur, en principe. Mais vous en pensez quoi de la postérité pour un artiste ?
Complètement.
Complètement, j'en étais sûr.
Sauf pour les gens que j'aime et pour mes enfants. Vous savez, chez nous, on dit qu'on meurt pas. On dit qu'on s'absente, qu'on va dans un endroit où on ne peut pas nous voir. Primo Levi, il dit les gens sont morts que quand on les oublie. Donc, moi, j'ai pas envie que mes enfants m'oublient pour deux raisons. D'abord parce que c'est très important la transmission, et parce que j'espère que quand je serai plus là, qu'ils se souviendront encore peut-être des choses, des discussions qu'on a eues, des choses dont on a parlé ensemble, et que ça les aidera encore à avancer. Moi, je n'oublie pas ce que m'a dit mon père. Mon père, je le voyais très peu, il m'a dit peu de choses dans ma vie, mais les choses qu'il m'a dites me servent encore aujourd'hui. Donc, sinon, la postérité, c'est pour les vivants, la postérité, c'est pas pour les morts. Les
vous
morts,
avez
ils n'en ont rien à foutre
vous
de la postérité.
Vous avez raison. Mais oh, tiens, au fait, pourquoi ne jouez-vous pas dans les films que vous réalisez ?
Ah, ça c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands acteurs en France, et que c'est un bonheur pour moi de voir, et pas de jouer. C'est un grand bonheur. Je jouerai dans mes films le jour où il y aura un rôle que j'écrirai, où il y aura personne d'autre que moi qui peut le faire. Mais c'est à mon avis pas demain la veille.
C'est pas demain la veille, d'accord.
Non mais bon. je suis, vous savez, assez nourri. Mon ego est assez nourri.
Oui,
j'ai
oui.
pas de problème avec ça.
Alors, cher Michel Boujna, c'est tout neuf. Vous venez d'apprendre que l'humanité blessée, la fougue et la sincérité avec lesquelles vous incarnez l'avare au Théâtre des Variétés à Paris vous vaut donc, j'ai presque envie de dire, vous vaut enfin votre première nomination au Molière. Alors cette reconnaissance de vos pairs au travers d'un rôle qui est, on l'a dit tout à l'heure, une sorte d'Himalaya, vous l'accueillez comment ?
Je suis très heureux. Je pense beaucoup au spectacle et à mes partenaires. J'aurais adoré qu'il y ait une nomination pour le spectacle, dans son ensemble. Parce que, contrairement à Ewan Michaud, là, je ne suis pas seul.
Ben oui, ils sont neuf.
Ouais, on n'est pas seul. Oui, qu'on ne joue pas l'avare tout seul, on joue l'avare avec les autres. C'est une partition. Et j'ai énormément de joie et de bonheur à de jouer avec les autres, notamment parce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de choses seul sur scène. Et je mesure le bonheur que c'est et la chance que c'est. Donc, je prends cette nomination aussi pour tous mes partenaires dans l'avare, y compris pour le metteur en scène.
Vous irez au Molière, hein ? Vous n'allez pas vous dérober, Michel Boujna.
Ouais, j'ai pas.
Allez.
Mais j'irai.
Vous en serez.
J'irai, oui, je jouerai le jeu, que je gagne ou que je perde, je jouerai le jeu. De toutes les façons, il y a des acteurs qui sont nommés en même temps que moi, qui ont beaucoup de talent. Je veux dire, c'est un honneur que d'être nommé. Évidemment, je serais très content d'être récompensé. Si je le suis pas, c'est pas très grave. Ça m'est déjà arrivé. J'ai été nommé au César du meilleur acteur pour le nombre
oui,
du monde.
Oui, le film d'Ariel Zetoun.
Et d'ailleurs, c'était Arditi qui l'avait eu. Et là, Arditi est nommé en même temps que moi. Il est toujours avec moi. mais je l'aime beaucoup et je trouve que c'est un acteur magnifique. Donc c'est pas. Écoutez, le plus important, c'est qu'à travers ce genre de cérémonie et d'événements, on fasse la promotion du théâtre. Et que cette nomination serve à rendre encore plus populaire ce spectacle. Voilà, moi, c'est ça qui m'importe. En même temps, c'est vrai que si je l'ai, je serais très content. Hein. Je ne vais pas gâcher mon plaisir. Hein.
Michel Boujna, parlons de la Méditerranée. C'est plus qu'une mer, la Méditerranée. C'est l'idée d'un bonheur fantasmé, onirique, comme un songe auquel on veut toujours revenir. La mer comme une matrice, n'est-ce pas ? La lumière, le soleil qui réchauffe l'âge, et puis les mélancolies, puis qui euphorise tout. Vous ne pourriez pas vivre loin d'une mer du Sud, loin
impossible,
de la Méditerranée.
Non, impossible.
Loin d'un bateau.
Impossible.
Impossible. D'ailleurs, vous dites, quand je suis en mer, je suis autant à Tunis qu'en France.
Ben oui. Mon territoire, c'est la Méditerranée.
Ouais.
La Tunisie, évidemment, c'est le berceau de l'humanité. Personne n'est au courant, mais bon. Parce qu'on ne veut pas vexer, vous voyez. Mais sinon, quand je suis en bateau, c'est... Il n'y a pas un endroit... Enfin, à part la Seine,
oui.
Il n'y a pas un endroit où je me sens mieux qu'en bateau. c'est chez moi, c'est mon élément, c'est, je déteste la montagne. Moi, vous me mettez sur des skis, je fais une dépression nerveuse. En plus, il y a un côté où je ne tourne pas en ski. Alors, tous les skieurs m'expliquent qu'on a toujours un côté qui est moins bon que l'autre.
Oui.
Mais moi, il y a un côté, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'existe pas. Donc, je ne sais pas tourner.
Mais vous êtes un bon marin ? Vous êtes un bon navigateur ?
Je suis...
Vous êtes une espèce de...
Non, je suis une espèce de loukoum professionnel.
C'est vous qui l'avez dit.
Je dors beaucoup. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai été sur le bateau d'un copain, un voilier, il faisait une régate.
Oui.
Ah, ils étaient tous là.
C'est sérieux, ça.
Oui, à tirer les bords, voilà. un truc. Tout le monde était agité, angoissé, c'était la course. Le seul mec, au milieu de tout ce bordel, qui dormait, c'était moi. Et il y a un marin qui a dit à mon copain, mais dis-moi, qui c'est ce type là-bas ? Ça, il dort dans n'importe quelle position. Oui, dès qu'il est sur un bateau, je m'endors. Mais je fais très attention. La mer, c'est simple. C'est comme Molière. Vous la respectez, c'est magnifique. Vous la respectez pas, elle peut vous tuer.
Oui, parce que la Méditerranée, elle peut se mettre en colère très vite. Hein. Attention.
Oui,
hein.
Oui, il faut faire très attention.
Avec des vagues d'une amplitude très courte, donc elle peut être très dangereuse.
Très méchante. Donc, quand vous avez un problème comme ça, moi, je donne un conseil aux navigateurs, amateurs, parce que les pros, ils connaissent mieux que moi. Si vous avez du vent et que vous devez, par exemple, aller à Calvi et que vous partez d'Antibes, d'accord ?
Oui.
Vous avez des vents contraires, la Méditerranée s'énerve et tout ça. C'est pas grave.
C'est ça le conseil ?
Prenez le vent dans le cul et laissez-vous porter. Vous allez arriver en Espagne.
C'est
vous
serez pas grave.
Vous deviez aller à Calvi, vous allez à Barcelone, tant pis. C'est pas grave. Vous êtes en vie. Le danger, c'est de lutter contre elle.
Vous êtes pris des forces 8, forces 9 en Méditerranée ?
Oui, j'ai pris. À 10 000 nautiques de Calvi, je croyais qu'on n'allait jamais rentrer dans le port. Je croyais qu'on allait mourir là.
Donc on affale tout et puis on prie.
Pas tout. Il faut garder un petit peu
pour pouvoir avancer. Quand même.
Mais il faut être excessivement prudent. On ne joue pas avec la mer.
Alors j'ai appris que chaque été, Michel Bougelat, vous donnez rendez-vous aux jeunes de la famille que vous embarquez sur votre bateau, mais alors sans les adultes bien sûr, puisque vous-même, vous n'en êtes pas un.
Non, pas du tout.
Hein ?
Et ils sont maintenant, en plus, il y en a qui ont des enfants maintenant et tout ça, c'est eux mes parents hein, sur le bateau. Moi, je ne veux pas grandir. Ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. On dira ce qu'on voudra, je m'en fous. Je suis comme ça, je ne sais pas remplir les papiers. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Je ne suis pas un homme d'affaires, je m'en fous.
Voilà. Eh bien, ne changez rien. Alors, vous savez que la légende de Michel Bougenat qui pêche mais ne prend jamais un poisson,
oui, ça, c'est vrai.
Elle grandit de plus en plus, cette légende-là.
Oui, c'est une catastrophe. Mais c'est la vérité. Je racontais
encore. Vous attendez qu'enfin dans votre vie il y ait un seul poisson qui accepte de se sacrifier.
Oui, moi j'ai besoin d'être seul sur le bateau avec mes cannes à pêche et enfin de voir si ça prend. Mais pour l'instant, depuis à peu près plus de 30 ans, ça prend pas.
Vous savez qu'ils rigolent autour de votre bateau, les poissons.
Et je sais pas.
Mais ils nagent autour de votre bateau parce qu'ils savent que là ils sont pas en danger pendant que vous pêchez.
Ça c'est sûr. Alors que quand je suis sur le bateau des copains, je pêche. J'ai un copain, il m'a offert une canne à pêche. Je suis hyper impatient de l'essayer parce qu'elle est tellement belle. Presque, elle est tellement belle que j'ai pas envie de l'emmener pêcher. J'ai envie de la mettre au-dessus de ma cheminée et de la regarder. Elle est, mais alors ? C'est une canne à pêche, vous ne pouvez pas savoir.
Voilà, et les poissons vont continuer de vous remercier. Alors, on a compris, Michel Bougenat, que la Méditerranée, pour vous, c'est une sorte de no man's land qui cerne, en fait, la terre des souvenirs, la terre de l'enfance. Est-ce que vous êtes retourné en Tunisie ? Ou bien la situation y est trop tendue ?
Ça me manque beaucoup. J'y étais il y a 5-6 ans, jouer au Festival de Carthage.
Oui.
Mais ça me manque beaucoup. Mon pays me manque beaucoup. Ma terre natale me manque beaucoup. Moi, j'ai vraiment deux pays que j'aime profondément. Enfin, évidemment, c'est la Tunisie et la France. Après, j'ai des relations avec d'autres endroits qui sont très importants, que ce soit Rome, que ce soit Jérusalem. Mais j'ai vraiment mes branches en France et mes racines en Tunisie. Vous voyez ? Parce que j'adore la France, moi. J'adore ce pays. J'adore son histoire. J'adore ce qu'il m'a donné.
Et d'ailleurs, vous avez décidé d'y passer toute votre vie.
Mais bien
sûr. Donc voilà.
Non, mais moi, je mourrai en France.
Avec une petite préférence pour le Sud, quand même. Mais bon, allez, ça, il ne faut pas trop le dire devant les gens du Nord. Mais ils vous comprennent, puisque
Hein, un de mes meilleurs amis, c'est Danny
dans
Boone.
Dans le cœur, hein. Le soleil, voilà, exactement. Qu'ils n'ont pas dehors.
Non, donc, non, mais moi j'adore le Nord. J'adore le Nord, c'est pas chez moi, mais j'adore.
Alors, parlons du Sud, parlons du festival de Ramatuelle, qui est l'un des plus beaux festivals de l'été, dans un site magique, en pleine nature, où les artistes s'expriment au son du chant des cigales. Et festival qui programme aussi bien des concerts que des pièces de théâtre. Vous en êtes le directeur artistique, cet été, comme depuis combien d'années?
Ça fait que je dirige le
festival.
Oui,
avec Jacqueline Franjou, 16 ans. Donc,
Jacqueline, c'est le pilier. Jacqueline Franjou, c'est la présidente du festival, c'est la créatrice.
Et vous en êtes le directeur artistique. Alors, vous nous promettez qui et quoi pour l'été prochain?
Ah, ça va de Bruel qui fait l'ouverture à Calogero. Il y a Le Malade Imaginaire avec Francis Perrin. Il y a un spectacle, Marie des Poules, joué par Béatrice Agenin, qui a eu le Molière d'ailleurs pour ça.
Oui.
C'est un texte de George Sand. C'est une merveille de spectacle. Il y a Alex Vizorek aussi qui vient, je suis très content. Il y a François-Xavier de Maison.
Waouh, c'est incroyablement varié, comme chaque été.
Oui, oui. J'ai pas tout là dans la tête, mais en tout cas, comme d'habitude, c'est une programmation très éclectique, mais toujours avec une volonté forte. On fait pas n'importe quoi à Ramatuelle. On est éclectique parce que...
Mais éclectique dans le summum de la qualité.
On essaye en tout cas. L'idée, c'est qu'il faut arrêter avec l'ostracisme. Mmh. Voilà. Mmh. On peut jouer au même endroit Marie des Poules, qui est un thèse de Georges Sand, à côté de Calogero qui va venir chanter.
Voilà. Ou Francis Cabrel.
Exactement, qui est venu. Et c'est un bonheur, ça.
Alors, Michel Boujna, votre fils a 24 ans, votre fille 22 ans. Est-ce que voir leur père heureux sur scène leur a donné l'envie de tenter l'aventure?
Non.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Ils sont très contents. Hein. Moi, quand je rentre en ce moment à la maison, le soir, mon fils est à la maison en ce moment, j'ouvre la porte et la première phrase, c'est « ça s'est bien passé ?» Donc, il a le trac pour moi.
Votre fils est une mère juive.
Oui, absolument. Mais voilà. Joe, il déteste. Ce qu'il préfère, par exemple, quand on est tous les deux, c'est d'aller manger dans un endroit où il n'y a personne. Ce qu'il préfère, c'est manger à la maison. Son père, c'est son père. Quand on est dehors, qu'il y a des gens qui me reconnaissent, tout ça, c'est plus. Il est très gêné de ça. Lui, c'est le compte. Lui, elle adore. Par exemple, elle m'a hier ou ce matin, je sais plus, j'ai eu au téléphone et elle m'a dit bon, alors papa, pour la soirée des Molières, j'ai ma tenue. Hein.
Elle est ravissante, Louise.
Et très belle, oui.
Vraiment très belle.
Grâce à leur mère.
Dit-il.
Ils sont beaux, bon. Très beaux tous les deux.
Votre maman, Michel Boujna, votre maman, elle a 97 ans. Oui. Et il paraît qu'elle suit avec une curiosité gourmande tout ce que vous faites.
Oui, ses quatre fils, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants.
Voilà. Alors, la nomination au Molière, elle l'a accueillie comment? Je parie qu'elle n'a même pas été surprise.
Non, elle m'a dit, bon alors, maintenant il faut la voir, elle m'a dit. Elle est très... Vous savez, la plus belle histoire, une des plus belles histoires sur ma mère, c'est... Je jouais à l'époque au Splendide, oui. Il y a très longtemps.
Oui.
Elle venait de temps en temps me voir. Un jour, elle vient me voir, mais elle ne vient pas voir le spectacle, elle vient juste à la fin. Donc, quand je descends, je sors de scène et que je descends dans ma loge, elle est dans la loge en train de lire un article qu'il y avait dans Minute. Minute, qui est un journal fasciste.
Ouais.
Et tout à fait antisémite. Et elle me dit, qu'est-ce que fait ce journal dans ta loge? J'ai dit, maman, il y a une critique du spectacle dedans. Elle me fait, ah bon, il y a une critique du spectacle dedans, dans ce journal antisémite? Elle prend le journal, elle lit la critique, qui était dithyrambique.
Oui.
Et elle me dit, tu es sûr qu'ils sont fascistes, ceux-là? Et ça, et le jour où c'est Sophia amoureux. Loren est venue me voir jouer, on a su que Sophia Loren allait venir. Évidemment, Sophia Loren.
Alors, votre maman est venue ce soir-là.
Vous rigolez. Mais non seulement elle est venue, mais oui. Elle s'est mise trois rangs devant. Oui. Elle savait très bien où Sophia Loren était placée. Et dès qu'il y a eu le moindre problème d'installation, de machin, d'agitation dans la salle avant le spectacle...
Elle faisait la maîtresse de maison.
Non, elle a dit à sa voisine, elle a dit « Oh, ce soir, c'est compliqué, mais c'est pas la faute de mon fils. Hein. » Assez fort pour que Sophia Loren l'entende. Et Sophia Loren a fait « C'est votre fils. Elle, vous avez entendu ?» Mais c'est normal.
Mais voilà, on est dans un film, c'est magnifique. Alors, chaque fois que Molière voulait jouer une tragédie, il écrivait une comédie. Voilà, ainsi l'avare qui fait jaillir le rire de situations tragiques. C'est une sacrée boucle que vous aurez faite, Michel Bougenat, depuis les rires tendres que provoquait Albert, il y a 42 ans déjà, votre premier one-man show, au rire, j'ai envie de dire, inquisiteur que provoque L'Avare, l'un des sommets du répertoire classique. Donc, au début de cette conversation, vous nous avez dit que vous aviez beaucoup de mal à exprimer le concept du bonheur d'une manière personnelle dans la vie vraie. Oserez-vous dire enfin que vous êtes un homme heureux ?
Je sais plus qui a dit le bonheur, c'est le ça dure le temps d'une cigarette. En plus, je fume plus. Donc oui, mais je pense pas à tout ça. Je pense à demain, je pense à ce soir où je vais jouer.
Vous pensez à la vie.
Oui, je pense à ce qui m'attend. Et vous savez, quand j'aurai fini de jouer L'Avare, que je serai chez moi dans le sud et que je serai au soleil allongé. Sur un bateau, avec une canne à pêche à côté de moi. Même si j'attrape pas de poissons,
évidemment. Et les poissons qui vous narguent.
Voilà. À ce moment-là, je dirais, d'abord, j'aurais le sentiment du travail accompli, comme un artisan, vous savez. Là, oui, je pourrais vous envoyer à moi en disant, là, je suis bien, là, je suis content, là, je suis heureux. En sachant que mes enfants vont bien, les gens que j'aime vont bien, tout est bien rangé, tout est bien organisé, je peux aller à la pêche en étant tranquille. Parce que je sais que tout va bien. Voilà. Là, oui. Mais non, là, non. Je vais jouer.
Bon.
Je vais jouer. Est-ce que je vais réussir à le faire encore une fois ? Est-ce que je ne vais pas avoir un problème ? Est-ce que je ne vais pas me tordre le poignet ? Est-ce que je ne vais pas me claquer un muscle ?
Mais ce sont les défis magnifiques de la vie.
Oui, et mais puis, je pense tout le temps à ce qui peut arriver.
Et puis, ça transcende les choses. Ouais. Moi, j'attends le petit SMS cet été, hein, quand vous serez allongé sur le bateau au soleil.
Je vais faire une photo, je vais vous l'envoyer.
Eh bien, je compte sur vous.
Promis.
En attendant, du mercredi au dimanche, dans la grande salle magnifique du Théâtre des Variétés, à Paris, Michel Bougenat est L'Avare de Molière. Merci.
Oui, je vous en prie.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.